Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Ça fait longtemps quand même.
Oh là là, ah, ça fait très longtemps.
Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, je te touche.
Oui, enchéré en os.
C'est le retour, ça fait plaisir de se retrouver Thibaut.
Oui.
Et ça fait plaisir de vous retrouver aussi, vous qui nous regardez ou écoutez. Cinécast a eu une bonne pause quand même.
Une trop longue pause,
mais
on va pas se mentir.
Mais c'était pas uniquement pour se reposer, hein. Il y a eu des festivités.
Il y a eu littéralement zéro repos pour ma part.
Toi, tu viens à peine de sortir de l'avion.
Tu vois le rouleau? Je suis même pas encore au bout.
J'ai
passé le bout là.
T'as la pêche. On a plein de films à vous parler, à vous présenter cette semaine dans Cinécast. Mais tu reviens de San Sebastian, donc c'est aussi
oui.
Les programmes. Enfin, le programme de ce prochain jour, c'est pas mal de films de San Sebastian aussi.
Oui, encore l'un ou l'autre film dont j'ai pas parlé. Voilà, je préférerais faire ça avec toi plutôt que tout seul, parce que tout seul, c'est un peu,
hein, c'est parfois un peu la déprime.
Ouais, un peu laborieux.
Mais
hein.
Tu fais ça très bien et c'est toujours quand même assez passionnant de t'écouter, en plus avec un avis à chaud après la projection du film là-bas. C'est toujours intéressant en plus de te voir dans d'autres settings. Moi, j'aime bien. Ça me c'est dépaysant pour moi de te voir comme
moi,
ça dans d'autres.
J'aime bien être en festival, j'aime bien voir des films.
Ouais.
Faire les podcasts tout seul, c'est moins rigolo quand même.
Donc, mais bon, on est bien d'accord.
Mais on va quand même parler d'un film qui est passé au Festival de Saint-Sébastien
tout à fait.
Le week-end dernier.
Il n'est pas passé à Venise aussi, je pense que oui.
Bien sûr, il a commencé à Venise, il est allé à Toronto, ils ont fait une première à Hollywood, puis Saint-Sébastien, qui était le fameux film surprise. Chaque année, le Festival de Saint-Sébastien a un film surprise. J'étais au courant déjà avant que ça serait Blonde.
Andrew
Dominique
était
là.
C'est écrit.
C'est noté, hein, vous avez cliqué dessus, vous savez.
C'est écrit.
Andrew Dominique était là, Ana de Armas aussi.
Ouh, toujours aussi belle.
Magnifique.
J'ai vu que tu as attendu presque 2 heures devant son
non,
hôtel.
Alors,
qu'est-ce
qui
s'est passé?
Je n'ai pas... ça y est, non, ne me force pas à raconter toutes tes histoires. Non, je n'ai pas attendu. Je travaillais dans l'hôtel en question. Et puis, je suis passé devant, il y avait beaucoup de monde. Elle est arrivée avec 2 heures de retard. Je suis repassé 2 heures plus tard. Purement par hasard, j'ai vu que la rue était bloquée. Je fais, oh, Amnaville doit arriver. Je suis arrivé, elle arrivait. Voilà, très bien. C'est magnifique, évidemment, Anna.
Anna était là pour son film Blonde.
Oui.
Blonde, qui est un film Netflix qui sort d'ailleurs ce 28 septembre sur la plateforme. Film qui est très attendu parce que, comme on l'a dit, dans tous les festivals, gros buzz autour de la prestation notamment de Ana de Armas, autour du côté un peu sulfureux du film, puisqu'il y a eu du gossip, hein. Attention, c'est très sexuel, on ne sait pas, est-ce que ça peut se montrer, est-ce que ça peut...
C'est très sexuel. Bah alors, pour rappel, je pense qu'on en a déjà parlé dans le podcast, c'est que le film, en fait, il traîne un peu en post-prod depuis 1 an. On l'espérait à Venise l'année dernière,
oui.
Et on ne l'a pas eu parce que, il y avait un souci de director's cut, que Andrew Dominique n'avait pas vraiment eu, parce qu'effectivement, le film est assez sulfureux, ce qui n'est pas dans les habitudes de Netflix, enfin, pour des films en tout cas.
Oui.
En série, ils en ont un peu rien à foutre, ils montent tout ce qu'ils veulent. En film, surtout film destiné à des festivals,
voilà,
trucs comme
ça. Il faut
c'est pas spécialement dans leurs habitudes.
Grand public, quoi, minimum,
voilà.
Tu vois, pour que ça passe.
Et donc voilà, ça a un peu traîné. Finalement, il a quand même pu faire le film qu'il voulait. Le film fait 2h48, je pense. Donc il est quand même, il a quand même fait ce qu'il voulait. Hein,
il a fait le film qu'il voulait. C'est...
Il a fait un peu le forcing.
2h46, c'est pas mal. Avec donc au casting Ana de Armas qui joue donc Marilyn Monroe, qui s'appelle Norma Jean à la base. Hein, pour
oui, Norma Jean est le vrai nom de Marilyn Monroe.
Avec également Bobby Cannavale au casting et Adrien Brody. Donc un film adapté du best-seller de Joyce Carol Oates. Qui s'appelle du coup Blonde, même nom.
Oui, et c'est important de le préciser, parce que c'est-à-dire que Blonde n'est pas, à proprement parler, un biopic sur Marilyn Monroe.
Ça.
C'est adapté d'un bouquin sur elle. Donc déjà, il y a une part de romanciation qui a été effectuée au préalable. Donc on est dans une adaptation d'un truc déjà un peu romancé. Donc même s'il y a évidemment plein de choses qui sont vraies, véridiques, vérifié et vérifiable, le film n'est pas à prendre au pied de la lettre comme étant un biopic sur Marilyn Monroe.
Exactement, donc on va utiliser le personnage de Marilyn Monroe pour faire briser un peu la frontière entre la réalité et la fiction, pour parler de sujets plus grands qu'elle, je présume.
Et un petit peu voilà. Comme le film sur Lady Di l'année dernière, Spencer.
Ça fait un peu la mode, hein, les films comme ça, chaque année, qui vont tacler une grande personnalité.
Écoute.
On avait eu Jackie il y a quelques années, tu le dis Lady Di, maintenant,
oui,
voilà.
Voilà. Bah, oui, ça c'était un peu le petit projet de Pablo Larraín l'année dernière avec Spencer et puis avant avec Jackie. Mais ici, Andrew Dominique fait quelque chose d'un peu similaire, en quelque sorte.
Est-ce qu'on se regarderait pas un petit extrait de la bande-annonce?
Bah, il est temps, là, parce
qu'on
blablate.
Allez, on revient juste après ça.
Miss Monroe, it's time.
You get your start?
Maybe.
What start?
In movies.
Quite continental. But diamonds are a girl's best friend.
I guess I was discovered.
Men grow cold as girls.
I know you're supposed to get used to it.
And we all lose our charms in the end.
On va s'arrêter là parce que la bande-annonce nous montre plein d'images emblématiques de Marilyn Monroe.
Oui.
Avec forcément la musique qui va avec la sexy attitude, quand même, il faut le dire. Marilyn Monroe, c'est quand même une icône de la sensualité américaine. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Thibaut, qui est réalisé par Andrew Dominik, un homme qui a fait des films par le passé, parfois, en tout cas, bah, toujours très stylisé.
Stylisé, mais aux antipodes. Hein.
Oui, c'est ça. Donc.
L'assassinat de Jesse James par le traître...
Le lâche.
Ouais. Bref.
Voilà.
Jesse James.
Il y avait Killing Them Softly aussi, toujours avec Brad Pitt.
Toujours avec Brad Pitt, oui, c'est ça. Rien à voir. Hein.
Puis Mindhunter, récemment, il a fait quelques épisodes de la saison 2, donc c'est...
Oui, et un super docu concert filmé sur Nick Cave aussi, qui est sorti cette année.
Voilà, donc c'est pas vraiment le... On l'attend pas là, et là, il nous sort un film qui a l'air...
Nick Cave, d'ailleurs, on entend une de ses chansons, et c'est Warren Ellis. Très long et fidèle collaborateur de Nick Cave qui a signé la bande originale du film. Mais oui, Andrew Dominik, cinéma un peu aux antipodes de ce biopic, qui n'est donc pas un biopic, c'est comme ça. Je l'ai dit juste avant, sur Marilyn Monroe, bien qu'effectivement, il ait des choix esthétiques assez forts en général.
Mais c'est peut-être ça qui fait son intérêt, parce que justement, des documentaires sur Marilyn Monroe, il y en a, hein, un peu comme les documentaires sur Diana ou autre. Mais avoir un film qui justement utilise Marilyn Monroe pour la faire un peu sortir de sa coquille, c'est pas une mauvaise idée sur papier.
Non, alors d'ailleurs, tu l'as dit, on voit des moments, des images assez iconiques de Marilyn Monroe. L'extrait de la bande-annonce est terminé là par la fameuse
robe blanche,
qui se soulève, filmé ici en noir et blanc. En fait, ce choix d'illustrer certaines images connue de Marilyn Monroe dans le film a eu pour conséquence qu'en fait il fait des choix d'images différents à chaque fois. C'est-à-dire que si une image connue de Marilyn Monroe est en noir et blanc, c'est une photo en noir et blanc, dont notamment cette image de la robe blanche qui se soulève, machin, il va filmer la scène en noir et blanc. S'il y a des images connues d'autres choses en couleur, ce sera en couleur dans le film. Donc on switch assez souvent, il y a vraiment des passages assez réguliers, récurrents, du noir et blanc à la couleur, de format scope à des formats flat aussi. Donc voilà, la mise en scène, les choix esthétiques, les choix de cadrage sont systématiquement adaptés à des images réelles de Marilyn Monroe.
D'accord, il y a un peu un côté reproduction des grandes images de Marilyn Monroe avec le fond et la forme, puisqu'il va vraiment changer aussi sa manière de filmer ou le matériel qu'il utilise, quoi.
C'est ça, ouais, il y a déjà un parti pris assez fort de mise en scène au départ. Ce qui est un peu déroutant au début, parce que voilà, c'est parce que je le savais qu'il avait fait ce choix esthétique de s'adapter. Si l'image connue est en noir et blanc, je filme en noir et blanc ce passage-là. Mais c'est vrai que pendant le film, si tu sais pas ce genre de choses, tu peux être un peu dérouté parce qu'il y a quand même des passages de format qui changent. Bon, après, c'est pas Transformers 5 où Michael Bay changeait de format littéralement toutes les deux secondes.
Crossover entre Blonde et Transformers 5.
Non, mais c'est parce que comme je parle de changement de format, de cadrage, de couleur, de noir et blanc, hein, je veux pas que vous imaginez que ce soit tout le temps. Hein. Voilà, on n'est pas dans Transformers 5. Mais voilà, il y a des changements qui sont assez réguliers.
Par contre, ça veut dire qu'on voit la patte du réalisateur. Donc, c'est-à-dire, c'est le genre de film où vraiment, si vous voulez être plongé dans l'histoire de Marilyn ou de ce qui va être raconté ici sans avoir l'impression de voir un film, vous n'allez peut-être pas être pris parce que justement, là, on voit un film et c'est à partie pris. On est en train de regarder le travail, quoi.
Ben, dans l'ensemble, les parties pris sont assez forts. C'est-à-dire que, voilà, esthétiquement, on en a déjà parlé, il y a pas mal de choix qui sont faits, mais au niveau du fond aussi, le choix est assez radical de la part d'Andrew Dominik, parce qu'on ne présente pas une image forcément très flatteuse de Marilyn Monroe. Il a décidé de limite un peu de lui taper dessus, de lui en faire voir des vertes et des pas mûres, parce que on le sait, elle a pas eu une vie facile dans son enfance, etc. Mais c'est surtout ça dont il parle, en fait.
Bien sûr.
Des moments difficiles vécus par Marilyn Monroe. Et donc, en fait, t'as l'impression que le film, j'exagère un petit peu, hein, mais qu'il a limite été pensé pour foutre sur la gueule de Monroe pendant 2h40, quoi, tu vois.
Mais pour foutre sur la gueule, dans quel sens? Lui dire, ah ah ah, entre guillemets, c'est ta faute, ou voilà, ou est-ce que c'est pour dire, tu es une vraie victime du 20e siècle de par la féminisation, enfin le sexisme, etc., ou d'autres sujets d'ailleurs, il n'y a pas que ça.
Plutôt comme ça, effectivement. Mais du coup, c'est très déroutant en tant que spectateur de voir cette icône absolue,
oui,
du cinéma des années 60, 5, enfin 50, 60, en prendre plein la gueule comme ça, parce que c'est pas du tout l'image qu'on a d'elle, en fait. Même si on, ouais, sait qu'elle a pas eu une vie facile, on sait que voilà, elle a eu son premier mari,
ouais,
était pas tendre non plus, et qu'il avait il avait pas la main légère. Tout ça sont des choses quand même qu'en tant que personne tu sais, mais le voir illustré de cette façon-là, mmh, dans un film qui est pas grand public, mais enfin, on parle quand même d'un film accessible sur une plateforme, donc quelque part grand public quand même, c'est assez marquant.
D'accord.
Il y a aussi pas mal de scènes sexuelles quand même. Ça aussi, c'est pas forcément, même si on sait, hein, qu'elle a eu une relation avec JFK, il y a pas mal, voilà, tout ça, c'est connu, hein, je vous apprends rien. Mais voir le personnage présenté de cette façon-là, de façon si frontale, si
à
crue,
nu, ouais, c'est ça.
Oui, littéralement à nu, dans tous les sens du terme, c'est assez déroutant. Et donc, c'est vrai que c'est pas un film qui est facile à voir, à digérer. Bon, j'ai eu la chance de le voir en festival, au cinéma, sur grand écran. Voir, ouais, ça
chez soi,
dans son canapé, pendant 2h48,
c'est ça.
Ça va être autre chose, hein.
C'est ça. Surtout quand à côté, on a House of Dragon et Lord of the Rings. On se dit pour des choix, mmh, à la maison avec son popcorn. C'est un peu audacieux de dire, on va regarder Blonde ce soir, chérie.
Eh bien, je vais vous dire qu'on se fait moins chier devant Blonde que devant Rings of Power. Alors,
le segway. non, mais on a compris. Donc, c'est vraiment un choix artistique. On est dans une plongée chez Marilyn Monroe avec, ouais, tous les côtés obscurs du personnage et de son vécu. J'ai quand même une question qui est hyper importante quand même. C'est Ana de Armas en Marilyn Monroe. C'est déjà le choix assez inattendu. Hein. Mais elle n'est pas blonde, patati patata. Elle a des origines qui n'ont rien à voir non plus.
Oui, donc oui.
Il y a plein de questions qui peuvent être posées. Et elle dit quand même, elle clame haut et fort que ça a changé sa vie, ce rôle. Elle a l'air d'être très perturbée. Elle pleurait même à Venise en parlant de ce film.
Bah, en même temps, même si j'ai beaucoup de respect, d'amour pour Ana de Armas,
oui, ça,
à part quelques... enfin, si, elle a eu des chouettes rôles dans des chouettes films, hein, dans Blade Runner 2049, évidemment, dans Knives Out. Mais,
oui, ça, c'est sympa,
mais globalement, voilà, elle n'a, oui, pas encore eu les grands rôles.
Le breakout, quoi.
Ouais, voilà. Mmh. Bah, on y est. Donc, d'accord, forcément, oui, c'est un film, ouais, qui va,
elle a son
changer,
Iconia, elle a son...
en tout cas, qui, voilà, ouais, un film qui va avoir un gros impact sur sa carrière, même si elle est déjà très très bien partie.
Bien sûr.
Voilà. Mais oui, c'est un peu, sans doute, game changer quelque part. Et elle est très très bien. Elle est très très bien en Marilyn Monroe. Il y a zéro souci. Tu rentres directement dans le film grâce à elle. Grâce aux autres comédiens aussi, hein, qui sont tous très bien, hein, Bobby Cannavale, mmh, Adrien Brody notamment, puis tous les autres. Hein, non, donc casting vraiment très 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 bien, et elle fabuleuse.
J'ai une dernière
parce que excuse-moi, elle est un peu une icône de maintenant aussi, et donc c'est pas, oui, un choix anodin d'aller prendre quelqu'un comme Ana de Armas pour incarner une icône comme Marilyn Monroe.
Elle l'est pas encore, mais elle pourrait le devenir.
Non, bien
fait,
sûr,
elle,
mais
est presque Nathalie Portman entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Elle arrive dans une statue où tu dis ah.
Elle a quand même un côté un peu coqueluche.
Elle pourrait être sur toutes les marques de parfum, quoi.
Ben c'est, ben ça commence.
Voilà, ça commence. Ah,
les couvertures, les parfums, tout ce que tu veux, ouais, ça va être comme ça. Et bien le sûr. Film va, à mon avis, encore accélérer la chose, quoi.
Ah, ça, c'est évident. Dernière question, et ça, c'est quand même important aussi, c'est qu'on parle beaucoup de style pour l'instant, de sujet. Est-ce qu'au-delà de ça, le film se suit telle une histoire avec un fil conducteur, ou bien on est vraiment dans des trucs un peu à gauche, à droite, où ça se regarde un peu comme une installation artistique, j'ai envie de dire, et non pas comme vraiment un film avec une histoire de bout en bout.
Le fil rouge, c'est la vie de Marilyn Monroe, de sa jeunesse,
chronologiquement,
globalement, la fin de sa vie ou presque, pas complètement, on s'arrête un peu avant, mais le film se veut plus profond dans le sens où c'est plutôt des réflexions sur ses états d'âme, sur le comment est-ce qu'elle faisait face à la célébrité, des interrogations sur la parentalité, parce que voilà, sa relation par rapport à ses parents à elle, le fait que elle ait envie ou n'ait pas envie d'être mère, comment est-ce qu'elle le vit aussi, en fait c'est beaucoup un film sur les traumas de sa vie, sur sa réaction par rapport à ces traumas, sur ses réflexions, par rapport à voilà son nouveau statut d'icône quand elle devient cette icône, des réflexions sur sa sexualité, etc. Donc c'est un film quand même assez profond, un peu inattendu comme je le disais, qui est pas facile à regarder. Honnêtement, je vais pas te dire j'ai adoré le film, je l'ai pas détesté non plus, je le trouve un peu
hybride,
un peu hybride, un peu sadique par moment, parce que je trouve que j'ai l'impression que parfois c'est un peu gratuit de se dire alors je vais vraiment taper sur Marilyn Monroe. Alors je comprends l'idée qu'il y a derrière, hein, c'est pas de détruire ou de dénaturer l'image qu'on a de Marilyn Monroe, mais c'est peut-être plutôt de faire réagir les spectateurs en disant ah ouais, Marilyn Monroe c'est aussi ce genre de choses.
Ouais.
Et peut-être que je vais un peu mieux comprendre ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu.
Bah, c'est aussi parce que je pense à l'époque des icônes comme ça, des femmes qui sont mises en avant aussi pour tous les côtés, voilà, sensuels et sexuels ou autres. À l'époque, on n'avait pas cette conscience de penser aussi à l'état de la femme derrière. Tu vois, il y avait vraiment la couverture, la façade, et c'était tout, quoi. C'était, ah voilà, Marilyn Monroe, magnifique, oh là là, mon Dieu, elle est trop belle et tout. Maintenant, on fait plus attention quand même à ce qui se passe derrière. Je pense à une Dua Lipa, par exemple, tu vois, qui est très jolie, très sexy aussi, mais qui est plus vocale sur des problèmes qu'elle peut avoir dans sa vie, etc. Donc, les gens sont plus intéressés par tous ces sujets-là qu'avant, où c'était juste, hey, sois belle, tais-toi, quoi. Tu vois.
Ouais.
Et aujourd'hui, le débat est différent. Donc voilà.
Tout à fait.
Puis c'est un sujet intéressant, un sujet remis au goût du jour du coup pour avec ce personnage de Marilyn Monroe pour ce film d'Andrew Dominik qui sort sur Netflix le 28 septembre. Si on doit lui donner une cote, Thibaut, moment difficile, qu'est-ce que tu lui donnes ?
Je donne quand même 3 étoiles parce que voilà, je pense que c'est un film qui a un intérêt et qui mérite d'être vu, même si je l'adore pas. Et honnêtement, je pense pas que c'est un film que je reverrai. Mais c'est un film qui mérite d'être vu, voilà, qui a le mérite d'exister.
Ça a le mérite d'exister, 3 étoiles en tout cas,
mal. Qui est bien fait, qui est bien joué.
Enfin, voilà. Mérite d'exister, 3 étoiles, c'est un peu bizarre, un peu contradictoire, mais non.
Comment ça ?
Parce que mérite d'exister, c'est un peu bas, tu vois ce que je veux dire, mais 3 étoiles.
Bah oui, mais après, j'ai pas un enthousiasme hyper grand par rapport au film non plus.
C'est une proposition.
Voilà, c'est ça, c'est
une vraie proposition.
C'est une vraie proposition de cinéma à laquelle j'adhère moyennement, mais je le trouve très bien foutu. C'est. Point de vue esthétique, mise en scène, etc., etc. C'est vraiment super. Donc, c'est pour ça que je donne pas une mauvaise note au film.
3 étoiles, du coup, pour ce Blonde qui est disponible le 28 septembre sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dès que vous l'avez vu sur la plateforme, dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais sur Spotify notamment, on peut mettre des notations sur les podcasts depuis pas très longtemps. Ça nous ferait plaisir si vous êtes dessus sur la plateforme. Un petit 4-5 étoiles, ça fait plaisir. On se dit à très très bientôt pour d'autres critiques. Ciao, ciao.